Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline.
Bonjour Jérémy.
Eh bien Céline, si j'ai bien compris, et en utilisant une expression de chez moi, vous avez fait partie des Happy Few invités à la cérémonie d'hommage national à Robert Badinter. Comment ça s'est passé ?
Eh bien, il faut reconnaître que la France sait encore rendre hommage à ses grands hommes et qu'elle peut le faire avec énormément de dignité et de prestance. La cérémonie avait lieu place Vendôme. Alors pourquoi place Vendôme ? Bah, tout simplement parce que c'est l'endroit où est situé le ministère de la Justice et que Robert Badinter a été un grand avocat, un grand ministre de la Justice et même plus que ça, un grand humaniste. Et c'est des figures d'hommes qui sont en train de disparaître et de nous quitter, ce qu'on pourrait appeler les vieux lions, ceux qui ont donné leur lettre de noblesse à la politique, même si aujourd'hui la crise politique que nous vivons fait qu'on a tendance à beaucoup revisiter ce qui s'est passé avant. Mais Robert Badinter est une de ces figures qui n'a jamais été réellement attaqué, enfin, lorsqu'il était ministre, bien sûr qu'il l'a été. Mais en tant que vieux sage aujourd'hui, c'est quelqu'un qui faisait l'unanimité pour la dignité de ses combats et l'humanisme des causes qu'il défendait et pour la manière extrêmement élégante qu'il avait de les défendre. Cet homme, la trajectoire de cet homme, elle nous parle aussi de ce que l'Occident a vécu, et particulièrement l'Europe, a vécu et est en train de vivre, puisque ce jeune homme juif d'origine russe, dont la famille va se réfugier en France pour fuir justement les pogroms, se retrouve à la fin de sa vie rattrapé par cette histoire, puisqu'il va voir à nouveau la Russie, si je puis dire, sortir de son lit et attaquer de façon extrêmement violente l'Ukraine. Et de la même manière que cet homme qui a vu une partie de sa famille disparaître dans les camps de concentration va assister à l'explosion de l'antisémitisme en France suite au pogrom du 7 octobre et qu'on peut dire qu'il a été témoin finalement à la fois de tout ce que l'humanité peut produire de plus beau et de pire, puisqu'il a connu les effets de la déportation, la Shoah, il a aussi connu la révolte contre ça, le plus jamais ça, tout le travail d'humanisme qui a été fait, et puis à la fin de sa vie, c'est pour se demander si tout cela a été utile et si plus jamais ça n'a toujours été qu'un leurre. Et peut-être la grande douleur que j'ai à l'évocation de cet homme, c'est d'imaginer qu'avec toute sa lucidité, il est parti en voyant revenir les démons qu'il a toujours essayé de chasser du monde politique.
Et cet hommage national a comporté, bien sûr, un discours du président de la République. On a connu dans le passé M. Macron très prolixe. Est-ce que le discours du président était à la hauteur de l'occasion ?
Eh bien oui. J'ai trouvé qu'il n'avait rien évité de ce qui pouvait être difficile justement dans ce parcours, dans ce réveil de l'antisémitisme. Que la mise en scène avait été très bien faite, puisque avant le discours du président, on a un petit film qui présente en fait Robert Badinter et qui est très intéressant parce que moi, je me souviens du Badinter ministre, d'un Badinter très solennel, mais les images que j'ai de lui, il vient de plaider pour l'abolition de la peine de mort. À chaque fois qu'il intervient, c'est sur des dossiers qui sont lourds, qui sont extrêmement forts. Et donc, j'ai le souvenir d'un homme très solennel, très élégant, très droit. Et là, sur le film, on voit le jeune homme ou l'homme qu'il fut. On découvre, il a un visage extrêmement expressif. Il a du charme, il a de la séduction. Et il a aussi une puissance extrême. C'est-à-dire qu'il y a un extrait qui se passe en 1992. C'est un hommage, en fait, à la rafle qui a eu lieu à Lyon. Mitterrand vient déposer une gerbe et à ce moment-là, il se fait siffler par une partie de la foule. On est dans une période où les choses sont un petit peu tendues. Tout ça, c'est lié à la remise en cause, au fait que Vichy reste une plaie ouverte chez les Français. Et Robert Badinter doit prendre la parole après tout ça. Et en fait, il fait fi de son discours et il va exploser littéralement à la tribune. Enfin, quand je dis exploser, non. C'est un homme qui a un sang-froid, mais on va sentir son émotion, même s'il la contrôle. Et c'est le moment où il va s'adresser à la foule et il lui dit « Vous m'avez fait honte ». Jamais un homme politique ne dit ça à une foule. Le but de l'homme politique, c'est de séduire la foule. Jamais il se place en face d'elle et en lui disant « Vous m'avez fait honte, ce que vous faites, et ça ne se fait pas. Les morts vous écoutent ». Et il leur reproche, dans un moment en fait de recueillement, dans un moment de dignité, de faire prévaloir la politique aïrie. Et dans ce moment-là, il est emporté par une passion, par une flamme, mais c'est une flamme de dignité et d'honneur. Et sincèrement, vous l'écoutez, vous le regardez, vous baissez les yeux. Même si vous n'avez pas été là jour-là, même si vous n'avez pas sifflé, là, on sent vraiment quelle force morale il pouvait avoir. Et puis, c'est un homme qui a reçu la grâce de l'amour. C'est pas rien, il a vécu 57 ans de mariage avec une femme qui était aussi belle qu'intelligente, qui était une femme philosophe, qui était une femme qui voulait exister par elle-même. À un point tel qu'en fait, on a peu de photos dans le fond où ils sont ensemble, peu d'événements où ils vont s'exposer. Ils n'ont pas mis en scène, vous savez ce qu'on dit aujourd'hui, le power couple. Non.
Ah oui.
Pas du tout, mais c'était un couple qui était profondément uni. Ils ne vivaient pas dans l'ombre l'un de l'autre, mais on les sentait indéfectiblement liés. Et dès que vous les voyez échanger un regard, vous voyez la présence de l'amour. Et enfin, il faut être un homme extrêmement fort pour vivre à côté d'une femme forte. Moi, je peux vous le dire.
Je ne peux qu'approuver vos paroles là, Céline. Mais en même temps, il y a deux formations politiques qui n'ont pas été invitées à la cérémonie. Et Jean-Luc Mélenchon a même dit que ça ne pouvait pas être un vrai hommage national s'il n'y avait pas tous les Français, c'est-à-dire y compris les représentants de son parti. Quel est votre avis là-dessus ?
Sincèrement, déjà, ce qu'on pourrait répondre à Jean-Luc Mélenchon, c'est, et au sujet du RN, donc les représentants de son parti devraient forcément être présents, mais le RN, il n'en parle pas, Jean-Luc Mélenchon, c'est curieux, c'est-à-dire tout le monde, si tous les Français doivent être présent, étant donné les scores que fait le RN, il devrait donc en appeler aussi à la présence du RN. Donc, on peut déjà noter cette espèce d'hypocrisie. Mais quand même, au bal des focus, c'est le grand meneur du bal. Je voulais juste rappeler deux, trois choses. C'est-à-dire, on ne s'impose pas à un enterrement. Pour n'importe quel être humain normalement éduqué, normalement constitué, c'est une base. J'allais dire... ici, LFI piétine une limite humaine, une limite quasiment anthropologique. Leur comportement est indécent. Ils font passer leur ego avant le respect du deuil d'une famille. Ils font c'est s'asseoir et piétiner les règles élémentaires de la civilité. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que quand une famille demande ces choses-là, elle a tous les droits. C'est elle qui souffre, c'est elle qui vient de perdre quelqu'un qui n'était pas simplement un repère, qui était un père, un époux, un grand-père, voilà quelqu'un de chair et de sang, cette douleur-là, elle se respecte. Et ce qui est très gênant, c'est que vous voyez le Rassemblement national auquel on prête les pires traits et les pires intentions, qui face au désir de la famille dit « bah écoutez, très bien », et ne viennent pas et ne font pas de scandale. Et vous avez de l'autre côté des gens qui sont censés représenter la gauche qui a essayé d'annexer l'humanisme, on va dire, et qui se comportent avec une indécence et un irrespect total. Moi, j'avoue que je trouve ça extrêmement choquant.
Et vous avez parlé au début de, en quelque sorte, de l'ironie que cet homme meurt à un moment où la violence se déchaîne en Russie, la violence se déchaîne au Moyen-Orient. Est-ce que, dans une certaine mesure, là, on dit adieu à toute une époque qui était justement une époque où l'humanisme, il fallait bien sûr lutter, mais où l'humanisme était quand même la doctrine dominante dans la plupart des pays occidentaux?
Oui, on est en train de dire adieu à une époque. On est en train de dire adieu à une époque qui, quelque part, a porté très haut les valeurs démocratiques, les valeurs de liberté, l'humanisme, la tentative d'essayer de lier les hommes peut-être au-delà de leurs différences ou en faisant reconnaître leurs différences comme n'étant pas, j'allais dire, source de hiérarchie ou source de conflit. Il y a eu toute cette tentative-là. Finalement, rappelez-vous, à l'inverse de la Première Guerre mondiale qu'on présente en général comme une boucherie, la Deuxième Guerre mondiale, qui va pourtant faire énormément plus de morts, on est presque à entre 50 et 60 millions de morts, on est sur un crime contre l'humanité atroce qui remet même en cause l'image qu'on peut avoir de l'homme. Et pourtant, cette guerre a un sens. Et pourtant, ceux qui l'ont menée, notamment du côté des alliés, des gens comme Churchill, des gens comme De Gaulle, des gens comme Eisenhower quand il était en... et surtout, aidez-moi avec le président américain, Roosevelt. Voilà. Et tous ces gens-là ont su donner du sens à cette guerre. Ils en ont fait un combat pour la liberté, un combat pour l'égalité, un combat contre l'abaissement de l'homme, la réduction de l'homme à une couleur de peau, un combat contre la réduction de l'homme à la bête pour pouvoir le massacrer. Tout ça était extrêmement fort. C'est peut-être resté sous l'angle d'un slogan avec ce plus jamais ça, et ce plus jamais ça, c'était plus jamais la barbarie, plus jamais la déshumanisation. Et on a cru réellement que on avait chassé la barbarie de l'Europe et de l'Occident, et qu'en fait tout le reste du monde allait nous rejoindre dans cette marche vers un avenir qui n'était sans doute pas parfait, mais qui était au moins plus heureux, et dans lequel le sang des hommes ne serait pas le ciment des empires. Et en fait, on est en train de perdre tout cela. Et aujourd'hui, nous étions les héritiers de cette force humaniste. Et aujourd'hui, nous sommes les héritiers de quoi ? Les héritiers de lâches qui baissent les yeux devant un crime contre l'humanité ? Les héritiers de lâches qui regardent l'antisémitisme se réveiller et qui disent « c'est mal » mais qui ne font rien pour agir ? Les héritiers de lâches qui voient un nouveau nazisme, qu'est l'islamisme, se lever et qui ne le combattent même pas sur leur sol ? Qui passent même des alliances avec les frères musulmans, les héritiers de lâches qui, face à un pogrom, expliquent que les gens qui l'ont commis sont des résistants. De qui sommes-nous les héritiers ? De quoi sommes-nous les héritiers ? Et de quoi l'avenir, notre avenir et l'avenir de nos enfants sera fait si nous renonçons à nous battre pour cela ? Et quand je dis si, nous avons renoncé. C'est devant nous, le renoncement. La lâcheté et ses conséquences sont devant nous. Et je trouve que s'il y a bien quelqu'un qui ne méritait pas cela, c'était Robert Badinter. Il aurait mérité de partir dans la lumière de la foi que les idéaux qu'il portait étaient encore des idéaux qui étaient soutenus.
Merci Céline et merci à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.